Je vous dis tout, on se dit tout, une chronique Radio Languedoc animée par Ilem Gouli, soutenue par CLIX 34, le comité de laïcité et de cohésion sociale. Une chronique qui vous permet de libérer la parole, de rester vous-même et de donner tout point de vue sur une question. Aujourd'hui, avec Radio Languedoc, nous avons Monsieur Dominique Trière, notre invité, professeur des universités émérite littérature française et de l'Université du Tiers-Temps. Alors, qui est Dominique ? Dominique Trière est né en 1952 à Nantes, après des études de lettres à Nantes et à Montpellier. Il enseigne dans le secondaire, puis dirige le Centre de civilisation française à l'Université Varsovie. Il a soutenu en 1987 une thèse d'État sur l'œuvre de Potocki, 1761-1815, sous la direction de Jacques Proust. Puis en 1993, il est élu maître de conférences de littérature française 18e siècle à l'Université Paul Valéry et professeur en 2001. Ses travaux de recherche portent principalement sur les relations culturelles entre la France et les pays d'Europe centrale et orientale au XVIIIe siècle. Il a été également vice-président du Conseil des études de la vie universitaire de l'Université Paul Valéry jusqu'en 2006, puis vice-président du Conseil scientifique. Il sera également membre du Conseil d'administration de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier. Il a même dirigé les presses universitaires de la Méditerranée, le PULM. Depuis 2019, il est président de l'UTT, l'Université du Tiers-Temps, et c'est dans ce cadre-là que nous l'avons invité. Bonjour Monsieur Dominique Trière.
Bonjour.
Merci d'être venu. Alors justement, vous êtes le président de l'Université du Tiers-Temps. Vous pourriez nous parler un petit peu aux Montpelliérains de l'Université du Tiers-Temps, peut-être l'histoire et aussi les projets à venir et puis les retours que vous avez également de l'Université du Tiers-Temps.
Alors c'est d'abord une très très belle institution, une institution un peu ancienne puisque nous allons bientôt fêter les 50 ans de l'Université du Tiers-Temps en 2025. C'est une institution qui dépend de nos deux universités montpelliéraines, l'Université de Montpellier et l'Université Paul Valéry. Et ce lien avec les deux universités nous permet d'avoir donc des enseignants, des professeurs, des collègues qui viennent donc parler à l'Université du Tiers-Temps, qui assure des conférences, qui assure des cours, des modules, dans toutes les disciplines donc de nos universités. Et en même temps, eh bien, nous avons en face nos étudiants, qui donc ce sont des gens qui sont dans le troisième temps de leur vie, et qui effectivement viennent chercher auprès de l'Université du Tiers-Temps de nouvelles compétences, connaissances, enrichissement dans le domaine donc de l'art, de la littérature, de la philosophie, des sciences, de l'histoire. Et c'est vrai que la population de Montpellier est une population qui accueille beaucoup de gens justement dans le tiers-temps de leur vie et nous leur offrons justement cette ouverture. C'est une ouverture à la fois culturelle, même scientifique, mais c'est aussi une ouverture humaine, dans la mesure où parmi nos étudiants, il y a des gens qui parfois sont seuls et qui trouvent au sein de l'Université du Tiers-Temps des gens avec qui parler, avec qui se retrouver, avec qui partager effectivement les mêmes cours, les mêmes goûts, la même écoute auprès donc de nos conférenciers.
Combien d'inscrits cette année, depuis 2022-2023?
Alors, disons que le taux normal de nos inscriptions tourne à plus de 2000, mais c'est vrai que nous avons souffert, bien sûr, de la pandémie. Et maintenant, nous remontons, nous avions perdu une bonne partie, près d'un tiers de nos effectifs l'année donc du Covid.
Du Covid, oui.
Et depuis, ben, les effectifs remontent. Cette année, donc, on approchera les 2000. Et je pense que l'année prochaine, on dépassera cette limite.
Je vous le souhaite.
Voilà. Et que on pourra effectivement reprendre ce qui était la règle avant ce triste épisode du Covid, c'est-à-dire une progression très régulière de nos étudiants. Et je pense que si nous bénéficions des choses nécessaires, savoir de salles, parce que ce sont souvent les salles qui nous font défaut.
En parlant de l'emplacement de salles, rappelez-nous l'adresse et l'une des grandes salles que vous occupez et qui, on peut dire, fait son plein.
Voilà. Alors, nous sommes logés, grâce à la mairie de Montpellier, la partie administrative donc, est dans l'hôtel de Varennes, donc en plein centre de Montpellier, sur la place Pétrarque. Et à côté donc des locaux administratifs, nous jouissons de la salle Pétrarque pendant toute la journée, ce qui fait qu'on peut accueillir quand même nos étudiants dans de bonnes conditions. Et nous avons bien sûr des salles également dans l'hôtel de Varennes et dans plusieurs maisons pour tous. Et nous avons aussi des enseignements qui sont donnés donc chez d'autres partenaires, par exemple l'Institut protestant de théologie ou les Dominicains, qui nous accueillent parce que, encore une fois, nous pourrions accueillir même plus d'étudiants, mais nous avons toujours cette difficulté, qui est une difficulté qui est un petit peu liée à Montpellier, qui est de réussir à loger toutes nos activités. C'est toujours une histoire de murs, finalement. Si on pouvait les écarter un peu plus, eh bien, on pourrait accueillir un petit peu plus de monde. Mais pour l'instant, voilà, on est un petit peu répartis sur ces lieux-là. On essaye tout de même d'avoir toujours des lieux qui soient à proximité du tram, parce que bien sûr, pour nos étudiants, c'est important qu'ils puissent avoir un moyen de transport qui aisé.
Oui, et c'est aussi l'enjeu que ce soit accessible aussi par rapport à la mobilité de ces personnes.
Oui.
Alors, on a parlé donc de nombre d'inscrits, quand même, on frôle les 2000. Alors, il y a bien évidemment un enjeu derrière, c'est de créer le lien social. Et alors, à travers, bien évidemment, des modules, des disciplines, la neuroscience, l'histoire de l'art, l'histoire de la langue française, la littérature, les langues. Vous êtes allé jusqu'au latin et vous êtes allé du côté de l'occitan. L'UTT a également une partie avec l'occitan. Vous pouvez nous en parler ?
Alors, nous avons depuis longtemps le Mémoire Doc, qui est une activité qui repose sur deux parties. La première partie, c'est la partie généalogie, parce que, évidemment, il y a beaucoup de nos étudiants qui sont intéressés par ce domaine. Or, quand on s'intéresse à la généalogie, ça suppose deux démarches. Une première démarche qui est celle de bien connaître les sites, en particulier des archives en ligne, et quelquefois ils sont un petit peu difficiles donc, au maniement. Donc c'est bien qu'il y ait cette formation à la généalogie à l'Université du Tiers-Temps. Et puis l'autre activité, qui est une activité peut-être plus performante, qui consiste dans un atelier à préparer des thèmes de recherche autour de Montpellier et de sa région. Ces thèmes de recherche, quand ils ont abouti, donnent lieu à une conférence donc, des étudiants qui ont mené cette recherche auprès donc, de l'Université du Tiers-Temps. Donc c'est doublement profitable, à la fois parce qu'il y a cette recherche pour les étudiants de Mémoire Doc, et puis en même temps, cette recherche, eh bien, elle débouche justement sur une conférence qui peut profiter à tous les autres étudiants. J'ajoute que Mémoire Doc également publie une petite plaquette qui est liée précisément à ces conférences et qui permet là aussi de bien faire connaître le travail qui a été réalisé. Alors ça, c'est pour ce qui est de Mémoire Doc. Nous avons bien sûr, vous l'avez évoqué, toutes les disciplines de l'université. Alors, c'est vrai que nos étudiants ont quelquefois un petit peu tendance à préférer les matières qui sont issues de l'Université Paul Valéry, c'est-à-dire la littérature, l'histoire, la philosophie, les arts. Mais nous avons aussi de remarquables enseignants qui viennent de l'Université de Montpellier. Et je citerai, vous avez évoqué à l'instant le module de neurosciences qui a énormément de succès
oui.
et qui est vraiment piloté par des collègues de très très grande valeur, une valeur reconnue internationalement. Et puis nous avons également des modules d'astronomie. Alors c'est vrai que il est plus facile pour nos étudiants qui sont d'ailleurs de niveaux de formation extrêmement divers, c'est plus facile de rentrer dans un cours de littérature ou d'histoire que d'entrer dans un cours de sciences exactes,
oui.
dans la mesure où souvent les sciences exactes demandent quand même une formation.
Oui, voilà.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en astronomie, par exemple, on a des niveaux, voilà, de façon à ce que les gens puissent progresser dans ce domaine-là.
Peut-être encore un dernier mot sur l'université avant d'arriver sur vos ouvrages. Vous avez aussi la géopolitique et
oui.
La mythologie avec monsieur le professeur Nigoul, je
oui.
crois, également, qui font salle, on va dire, salle comble à chaque module. C'est incroyable qu'il y ait autant d'appétence à ce niveau-là. C'est depuis toujours, qu'est-ce qui marque cette attirance vers ces deux grosses matières?
Alors, je voudrais quand même revenir sur la chance que l'Université du Tiers-Temps de Montpellier a, c'est d'avoir effectivement les deux universités
oui.
avec des enseignants de très très grande qualité. Alors, c'est vrai que certaines disciplines attirent beaucoup de gens et à juste titre, elles sont effectivement intéressantes. Je voudrais aussi signaler que nous sommes... l'équipe administrative, moi-même, extrêmement à l'écoute de ce que nos étudiants demandent. Vous évoquiez à l'instant le latin. Le latin, c'est une demande qui est venue des étudiants. Alors, on essaye à la fois de trouver les enseignants qui correspondent
oui.
aux demandes, mais également, on fait des suggestions. Par exemple, cette année, on a ouvert, vous l'évoquiez, ce module d'histoire de la langue française, qui est évidemment, là encore, un domaine extrêmement intéressant, extrêmement riche et qui intéresse nos étudiants. Et chaque année, ainsi, on essaye de trouver de nouveaux modules. Alors, je suis désolé de revenir encore à des considérations pratiques, matérielles. Alors, c'est vrai que probablement que si nous ouvrions chaque année de nouveaux modules, nous trouverions bien sûr des étudiants. Ce qu'il y a, c'est que nous trouvons des étudiants, nous trouvons des enseignants, mais nous ne trouvons pas les salles pour pouvoir accueillir tout ce monde. Donc, on est obligé soit de fermer certains modules pour pouvoir en ouvrir d'autres. C'est toujours un petit peu dommage. On l'a vécu, par exemple, pour les langues vivantes, où on a été obligé de fermer certaines langues qui n'étaient pas tellement demandées et surtout pour lesquelles nous avions de la difficulté justement à trouver des salles.
Et bien justement, en parlant, alors on a parlé de ce lien social, on a parlé de ces matières qui attirent fortement des étudiants. Avec ce succès, puisque on pourrait le résumer ainsi, c'est une question qui est un peu technique, mais bon, qui laisse, vous n'êtes pas obligé de répondre, on va dire directement, peut-être essayer de trouver les mots, mais vous avez jamais pensé justement, parce que ça me revient d'une amie, déclarer l'université du tiers-temps comme un intérêt général quelque part, parce que avec autant de monde qui vient, autant de sollicitations, vous êtes même obligé, selon pour une question matérielle, si je puis dire,
oui.
de limiter quelques places pour pouvoir justement dispenser la matière, déclarer cette, parce que finalement, c'est une annexe de l'université de
oui.
Paul Valéry, mais ça reste plus ou moins indépendant parce qu'il y a son propre conseil d'administration, il y a son
oui.
propre président. Alors voilà, la question, est-ce que vous n'avez jamais pensé à déclarer ceci en intérêt d'intérêt général, puisque finalement, avec ce succès et ce nombre de présences qui, d'ailleurs depuis, je remonte, moi j'ai les chiffres depuis 2014, ça a frôlé même les 2000 inscrits jusqu'à 2150 en 2018.
Oui, et on pourrait certainement avoir des effectifs encore plus élevés. Il suffirait qu'on fasse un petit peu de publicité au moment de la rentrée, mais on se retrouverait de nouveau confronté à ce problème de salle et de capacité d'accueil. Alors, l'intérêt général, alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se souvenir, vous l'avez dit, que l'Université du Tiers-Temps donc, est une institution qui dépend des deux universités, qui sont elles-mêmes d'intérêt général.
Oui, hein. Oui, tout à fait.
Donc, c'est la raison pour laquelle cette déclaration n'est peut-être pas nécessaire. J'ajoute que l'Université du Tiers-Temps, et là je me souviens de mon passé d'universitaire, l'Université du Tiers-Temps répond à l'une des missions de l'université. La diffusion du savoir fait partie des six missions qui ont été fixées aux universités par la loi. Donc l'Université du Tiers-Temps bénéficie historiquement, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler, bénéficie historiquement d'une forme d'indépendance vis-à-vis des deux universités, mais elle n'en dépend pas moins.
D'accord.
Et c'est vrai que, en fait, cette indépendance est liée au fait que l'Université du Tiers-Temps a toujours été rattachée précisément aux deux universités. Et les institutions qui sont liées aux deux universités sont très rares, voire même ont disparu, je pense en particulier à la BIU. Mais l'Université du Tiers-Temps, le président justement, est tantôt d'une université, tantôt de l'autre, et les deux présidents des deux universités sont toujours invités au conseil d'administration. Et je rappelle que le président de l'Université du Tiers-Temps est nommé par la présidente de l'Université Paul Valéry ou le président de l'Université Paul Valéry. Donc ça reste une institution universitaire. Et pour ma part, ce n'est pas parce que je suis universitaire, mais je tiens à ce lien étroit avec nos universités, dans la mesure où justement nous profitons de ce grand nombre d'enseignants qui peuvent aisément, même si bien sûr, comme d'habitude avec notre administration française, il faut satisfaire à des conditions administratives, mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir accès directement à cet énorme potentiel au niveau du personnel des deux universités.
La rentrée 2023-2024, j'ai envie de dire, c'est demain, c'est oui. Bientôt. Vous avez par exemple une candidature qui arrive pour une proposition de conférence. Vous pouvez nous dire comment ça se passe et...
Alors, ça se passe, je vous remercie de poser cette question parce qu'elle est vraiment... Maintenant, c'est tout à fait circonstanciel. Nous allons donc lancer dans les prochains jours l'appel donc, à demande de conférences ou de cours ou de modules auprès des deux universités. Alors, également d'autres personnes. C'est vrai que la plus grande part de nos conférenciers ou de nos enseignants viennent des deux universités, mais nous avons aussi soit des collègues qui viennent du secondaire, soit des gens qui ont une expérience, par exemple, dans la haute administration. Et donc, c'est maintenant que ces propositions doivent nous parvenir. Alors, le site de l'UTT est tout à fait prêt pour cela. Nous avons donc... on peut faire une demande sur le site de l'UTT pour proposer une conférence. Donc, dans un premier temps, pendant, disons, février-mars, nous allons réunir les candidatures, les demandes. Et puis ensuite, eh bien, il y a une commission qui se réunit précisément dans chaque université pour valider, en quelque sorte, la qualité des propositions qui nous sont faites. Et à partir de cela, quand nous aurons réuni toutes ces candidatures, eh bien, nous, troisième et dernière étape, nous nous réunirons au sein de l'Université du Tiers-Temps de façon, justement, à proposer et à établir notre planning de conférences pour l'année 2023-2024. Voilà, nous sommes là au début de la manœuvre.
Eh bien, vous avez entendu, voilà la procédure en tous les cas pour présenter vos propositions de conférences. On va finir avec les ouvrages. Alors, vous me corrigez si il y a une coquille quelque part. Alors, Lettres d'Odessa du duc de Richelieu, c'est donc au Centre international d'études du XVIIIe siècle. Puis après, j'ai Stanislas Auguste, qui est également à l'Institut d'études slaves 2012. Mmh. et Jean Potocki, voilà. Ouais. Je pense que là, vous pourrez nous en parler aussi. Et Rossé, de Dominique Trière, qui sont édités au Flammarion. Et là, 2019, Benjamin Constant.
Voilà. Voilà. Alors, mes travaux, si vous voulez, se sont orientés ou s'orientent actuellement dans deux directions. Une direction que je pratique depuis longtemps, puisque c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne les relations culturelles entre la France et les pays d'Europe centrale et orientale au XVIIIe siècle. À partir de quoi, il y a eu des travaux que j'ai faits sur Jean Potocki, le manuscrit trouvé à Saragosse, avec également, là, je travaillais récemment sur la correspondance entre Stanislas Auguste Poniatowski, le dernier roi de Pologne, et Madame Joffrin. Donc c'est cette dame qui avait le salon, ce salon renommé au XVIIIe siècle. Ça, c'est ce qui concerne effectivement les relations avec l'Est. Et puis, donc, depuis 4 ou 5 ans, je participe également donc, à l'édition des œuvres complètes de Benjamin Constant, et plus particulièrement à l'édition de sa correspondance générale. Et nous avons là une deadline, comme on dit en bon français, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'en 2030, tous les travaux soient terminés. Alors, les œuvres proprement dites, c'est plus de 30 volumes, correspondance, c'est plus de 20 volumes. Alors, nous avons déjà bien avancé, mais il ne faut pas perdre de temps, parce que donc, ce sera le bicentenaire de la mort de Benjamin Constant, et donc ceux qui nous soutiennent souhaitent effectivement que cette belle entreprise soit terminée pour 2030, et en ce qui concerne au moins la correspondance, il reste encore quelques centaines, même peut-être quelques milliers de lettres à éditer. Donc, même si l'Université du Tiers-Temps a beaucoup de place dans mes activités, il faut que je garde une petite place aussi pour Benjamin Constant.
D'accord. Voilà. Vous avez un petit proverbe ou une citation pour conclure cet entretien avant d'envoyer, de rappeler les numéros de téléphone et rappeler le site de l'Université du Tiers-Temps pour que les gens s'orientent vers cette institution.
Je n'ai pas de proverbe ou je n'ai pas de citation, mais simplement je voudrais dire à nos auditeurs que l'Université du Tiers-Temps, c'est véritablement quelque chose qui peut les aider. Je vois quelquefois autour de moi des gens pour qui la retraite, le fait de quitter l'activité, ça peut être difficile. Et c'est vraiment le moment d'apprendre, de découvrir ce que le temps passé n'a pas permis effectivement de faire. Donc nous les accueillerons généralement, les gens qui viennent à l'Université du Tiers-Temps sont extrêmement satisfaits de l'accueil qu'ils reçoivent. Je terminerai, parce que c'est quand même pas négligeable, on n'en a pas dit un mot, que les tarifs d'inscription sont extrêmement bas, qui n'ont pas bougé, et que pour 85 euros, vous pouvez assister à près de 200 conférences dans l'année, plus un club cinéma. Donc vraiment, nous serons très heureux d'accueillir tous les auditeurs, toutes les auditrices qui souhaitent venir à l'Université du Tiers-Temps.
Rappelez le site.
Alors, c'est UTT Montpellier, vous tapotez ça sur votre ordinateur et vous aurez accès
www.utt.
Voilà,
www.utt-montpellier.fr.
Voilà.
De toute façon, quand vous tapez UTT Montpellier, vous avez une première page, vous avez le site, le numéro de téléphone, vous avez également sur la page de front les matières, les modules, ces fameux tarifs de base qui, comme l'a dit Monsieur Trière, n'ont pas vraiment changé.
Pas du tout.
Et d'ailleurs, il me parle même d'exonération pour certains.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, pour certains étudiants.
Oui, hein. Nous avons effectivement, prenons en compte la situation des gens.
Voilà, c'était l'émission avec Dominique Trière, Radio Languedoc. Je tenais à remercier toute l'équipe et je remercie Dominique pour avoir s'être déplacé. Et vous l'avez entendu, l'Université du Tiers-Temps, plein centre de Montpellier, deux places Pétrarque. N'hésitez pas à les contacter. Du côté des conférenciers comme des professeurs et des étudiants, pour ainsi, on va dire, passer une nouvelle vie universitaire, créer du lien social, monter en compétences. Je vous remercie à tous et je vous dis à très vite. Merci. Je vous dis tout, on se dit tout. C'est terminé pour aujourd'hui. Une chronique animée par Ilem Gouli, réalisation Radio Languedoc, en partenariat avec l'X34.